chronique 1000 et une pages, l'actualité littéraire vue et lue pour nous chaque semaine par Frédéric à distance avec nous. Et c'est de l'autre côté de l'Atlantique, au moment où l'élection américaine est des plus indécises, que tu nous entraînes aujourd'hui.
Oui Nico, et je te propose de faire une petite promenade là-bas avec mon Américain favori. Peut-être le plus européen des Américains, il s'appelle Douglas Kennedy. Ailleurs chez moi, ce n'est pas un roman, c'est publié chez Belfond. Si je le précise, c'est parce que jusqu'ici, je dois bien reconnaître que je préférais ses romans. Il avait publié d'autres livres, Combien, Les grandes questions sans réponse, des voyages là-bas, dans des endroits qu'on a tendance à malheureusement pas trop visiter pour nous les expliquer. C'est pas que c'était inintéressant, mais je préférais ses romans. J'aimais mieux la façon dont il nous parlait de cet homme qui voulait vivre sa vie, qui pourrait bien être le sous-titre de celui-ci, avec et qu'il l'a fait. Parce que justement, en choisissant de quitter les États-Unis, Douglas Kennedy va porter sur ceci un regard un peu plus différent, je crois, et nous le faire partager dans ce livre. On est à New York. Une grande partie du livre s'y déroule parce que Douglas se décrit lui-même comme New-Yorkais avant d'être américain. Et New York est probablement la ville la plus européenne de ce côté-là de l'Atlantique. On a avec lui également la possibilité de se promener dans le temps, d'aller là-bas dans une des pharmacies new-yorkaises au moment où il est encore possible, avec un dollar, d'acheter 5 paquets de cigarettes destinés à son père. Il est très très jeune à ce moment-là, et on vend à un enfant des paquets de cigarettes qu'on emballe comme cadeau de Noël. Vous imaginez ça aujourd'hui? Pas vraiment. Il va aussi se retrouver parce que 2-3 étages au-dessus du petit immeuble où il habite vit un assistant du conservateur du MoMA. Et là, les plus grands peintres de Klein, de Koninck, même Pollock sont là dans une soirée et ils vont s'occuper à tour de rôle de lui, lui racontant des petites histoires, le distrayant. Ça fait rêver quand même, hein? New York avant tout, parce que ce New York est aussi, dans le temps, quelque chose de très particulier. Une école, la Collegial School of Boys, où il va se rendre, une école très huppée, qui coûte un certain prix à l'époque, déjà créée en 1628 par les explorateurs néerlandais qui viennent d'acheter Manhattan, l'île de Manhattan, pour 24 dollars. Une bonne négociation quand même, hein, aux Amérindiens. Cette école coûte aujourd'hui 41 370 dollars l'année, à faire rêver notre inoubliable et éphémère ministre de l'Éducation nationale. Vous vous rendez compte, c'est bien bien plus cher que Stanislas encore. Et puis il y a là-bas aussi des écoles où il n'y a que des garçons. Pour une école où il n'y a que des filles, vous voyez, ça, je suis sûr que ça lui plairait. Ne pas être populaire à l'université, c'est aussi de cela dont il va être question dans le roman, avec ce petit passage que je vais vous lire, qui raconte, oui, une scène qu'on a vue des milliers de fois dans des films, mais qui existe dans la réalité, vous savez, où on retourne dans une des associations scolaires, confrérie, on revoit les copains. Il a été invité et il retrouve un certain Karl Hildebrandt, qui lui dit « Tu n'es plus aussi maigrichon qu'avant ». Et lui, et toi, tu ne portes toujours pas de chaussures. Il n'en a jamais porté tout le temps dans le roman, dans le livre, pardon, qui n'est pas un roman, il nous raconte ça. Cody est là aussi. Elle m'a fusillé du regard en m'adressant un bref signe de tête. À croire que j'étais un pestiféré. Je me suis retourné vers l'ancien camarade qui m'avait invité. Que me vaut ce charmant accueil? Ça fait 30 ans qu'on ne s'est pas vu. Merde, on ne s'est jamais disputé. J'ai jamais été désagréable avec elle. Mais déjà à l'époque, elle me regardait de haut. Maintenant qu'elle n'a plus trop de raison de le faire, elle te déteste encore plus. Mais pourquoi ? Mon camarade a hésité un moment avant de répondre « Parce que toi, tu t'es échappé. » Et c'est cette évasion que nous raconte au fond Douglas Kennedy dans ce livre. Cet ailleurs qu'il a vécu, évidemment, et qui lui permet de regarder probablement l'Amérique différemment et de nous la faire partager, il faut bien le reconnaître, différemment. Ce moment où le président Kennedy est assassiné, et ce moment où qu'il vit en direct, lui, à la télévision, Oswald est assassiné, et où son grand-père, sans un mot pour cette scène vécue à la télévision, l'emmène dans un bistrot du coin, ce qui s'appelle pas un bistrot, boire un milkshake et manger un hot dog. C'est cette Amérique-là aussi qu'il nous raconte lorsqu'il nous promène dans les boîtes de jazz de New York. C'est un des meilleurs chapitres avec le village Vanguard, le chapitre 6, où il traîne très, très 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 jeune, à 16 ans, on le laisse entrer après qu'il ait discuté avec le type qui s'occupe de l'entrée, et où on le laisse s'asseoir au bar, mais pas d'alcool. Il peut fumer comme il veut, autant qu'il veut. Là aussi, on voit que les choses ont quelque peu évolué. On va se promener dans le chapitre 7, le suivant, qui est tout aussi intéressant pour essayer de comprendre comment les rouges et les bleus, les républicains et les démocrates, en sont arrivés là où on est aujourd'hui. Le chapitre se terminant sur un petit endroit à Mario, au Texas, où il se rend avec un masque au moment du Covid, où personne là-bas ne porte de masque, où personne là-bas n'est vacciné, on ne parle jamais du vaccin. Cette Amérique-là, je vous assure qu'on la comprend mieux dans Ailleurs, chez moi, sous la plume de Douglas Kennedy. C'est publié chez Belfond. Voilà pour cette semaine, Nico.
Frédéric, merci. Retrouvez la chronique 1001 pages chaque semaine sur les ondes de PFM 99.9, en ligne sur radiopfm.com.